écho, billets d'humeur ou chroniques, anecdotes ou histoires, culturelles et musicales. Inclassable. Aux manettes et au micro, Gilles Béguet. Bonjour à toutes et à tous et encore une fois, merci d'être présents pour ce dernier épisode d'Orinoco de l'année 2022. Après un début de saison, septembre, octobre, novembre, qui nous conduisit dans l'univers des médias puis celui des abeilles, le mois dernier, une condamnation du conformisme, cette attitude passive entre paresse, soumission et manipulation. Eh bien, nous achèverons cette année 2022 avec un sujet qui me tenait à cœur tant mon regard diffère de celui de la grande majorité de mes contemporains. Avec un titre sans équivoque, Le sexe des larmes, heureux l'homme qui pleure. On commencera dans ce programme par expliquer le côté physique, biologique des larmes, d'où viennent-elles, leur rôle, leur fonctionnement. Ce qui les déclenche, à savoir si les larmes sont réservées uniquement à l'expression de la tristesse, puis on tentera de savoir pourquoi aujourd'hui seules les filles et les femmes ont droit aux larmes alors que tous les humains partagent les mêmes émotions. Nous survolerons aussi quelques millénaires d'histoire pour se rappeler le regard qu'on portait sur les pleurs au fil des siècles. On essaiera aussi de battre en brèche des phrases à deux balles du genre « un homme, ça ne pleure pas » ou « chacun a en soi une part de féminité » comme si les larmes avaient un sexe. Car avant d'être une marque de différence entre hommes et femmes, les larmes appartiennent à tout le monde. Sont-ce uniquement les codes de notre société auxquels on se doit d'obéir qui régissent le comportement des garçons et des filles face aux larmes. Commençons par la partie la moins contestable, quoique, à savoir de quoi sont faites les larmes. Ce liquide provenant des glandes lacrymales qui s'échappent parfois du coin de nos yeux. Et là déjà, le sujet se complexifie légèrement car, en fonction de la nature des larmes, leur composition n'est pas tout à fait identique. Alors, quelles sont les différentes natures de nos larmes? Pour faire simple, elles sont au nombre de trois. Les premières, les larmes basales, celles qui sont en permanence à la surface de l'œil, recouvrant la cornée pour la lubrifier. Larmes que l'on retrouve d'ailleurs dans les yeux des mammifères en bonne santé. Larmes servant de bouclier entre l'œil et le monde extérieur, protégeant des saletés et des fines particules contenues dans l'atmosphère. Ces larmes sont composées essentiellement d'eau, H2O, de sodium, c'est-à-dire de sel, de lipides, d'enzymes et d'anticorps. Ces larmes basales sont les larmes de lubrification qui humidifient, nourrissent et oxygènent en continu la cornée. Continuellement sécrétées par les glandes lacrymales situées au-dessus de l'œil, en dessous des sourcils. Le deuxième type de larmes, les larmes réflexes, produites quand les yeux ont besoin d'éliminer des substances irritantes ou nuisibles, telles que la fumée, le gaz des bombes lacrymogènes, les corps ou particules étrangères, ou certaines molécules contenues dans l'oignon par exemple, qui irritent la cornée. C'est une réponse à une urgence, elles ont une fonction d'épuration, de nettoyage de la surface oculaire. Ces larmes réflexes sont à peu près de la même composition que les larmes basales, mais peuvent contenir parfois un peu plus d'enzymes. Puis, le troisième type de larmes, les larmes de l'émotion, sans doute la plus mystérieuse et unique à l'espèce humaine. Ce qui fait d'ailleurs que ces pleurs d'émotion font de nous des humains. Elles peuvent être provoquées par une forte émotion, un plaisir, une colère, une souffrance, un deuil ou une douleur physique. Ces pleurs ne se limitent pas aux émotions négatives. Beaucoup de gens pleurent lorsqu'ils sont extrêmement heureux, comme les moments d'humour intense, les faux rires. Leur composition, alors beaucoup d'eau, du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel, des lipides, du glucose, des sels minéraux, de l'urée, des protéines, comme l'albumine. S'ajoute à ça une concentration plus importante de protéines et d'hormones. L'hallucine encéphalique, qui agit sur la douleur. On y trouve aussi des toxines associées au stress et des antalgiques. Mais aussi la prolactine, l'hormone qui, chez la femme, stimule la production du lait. Et c'est cette hormone, la prolactine, qui est à l'origine d'une idée reçue qui a perduré pendant longtemps. La prolactine intervenant dans la lactation, on imaginait que les femmes en avaient plus et que cela expliquait pourquoi elles pleuraient plus que les hommes. Ce qu'aujourd'hui on explique plutôt par des facteurs culturels, comme nous le verrons au cours de ce programme. Mais après avoir dit cela, on a tout dit, on n'a rien dit à la fois. Connaître la composition chimique des larmes est certes intéressant, mais ne répond pas complètement à l'objectif de ce programme et au regard que nous portons sur le fait de pleurer. Car pleurer, vous le reconnaîtrez, n'est pas bien vu quand on est un mec, un vrai, un homme, un mâle. Certaines cultures considèrent que pleurer est indigne et infantile, jetant des reproches à ceux qui pleurent publiquement, sauf si cela est dû à la mort d'un ami ou d'un proche ou d'un parent. Dans la plupart des cultures occidentales, il est socialement plus acceptable pour les femmes et les enfants de pleurer que pour les hommes. Mais en a-t-il toujours été ainsi ? Lisons ce qui est écrit à propos d'un des héros légendaires de la guerre de Troie, Achille, fréquemment appelé Péléide. Seul, le Péléide, étendu sur la rive où bruit la mer, sanglote lourdement au milieu de nombreux myrmidons, dans un endroit découvert où le flot déferle au rivage. Enfin, le sommeil le prend, donnant congé aux soucis de son cœur. Achille pleurait la mort de Patrocle, un des guerriers grecs de la guerre de Troie. Quand soudain, dans son sommeil, Achille voit l'âme du malheureux Patrocle qui lui dit « Tu dors, et moi, tu m'as oublié, Achille. Tu avais souci du vivant, tu n'as plus souci du mort. Va, donne-moi ta main, je te le demande en pleurant. » Voilà comment s'écrit le récit des héros légendaires de la guerre de Troie. La violence de ses pleurs faisait partie intégrante de son héroïsme. À l'époque d'Homère, les guerriers les plus vaillants faisaient couler leurs larmes. Vous allez me dire, les Grecs, mais qu'en était-il à Rome ? Le 11 janvier 49 avant Jésus-Christ, Jules César franchit le Rubicon, un petit fleuve côtier d'Italie centrale qui se jette dans l'Adriatique. La loi de Rome interdisait à quiconque de franchir ce fleuve avec une armée, sauf autorisation expresse du Sénat. En traversant sans autorisation le Rubicon avec ses troupes, César viole donc cette loi et lance un défi mortel au Sénat qui dirige la République. République romaine agonisante depuis déjà plusieurs décennies. Quelle réaction provoqua cet acte de bravoure à Jules César ? Jules César pleura devant ses soldats juste après avoir traversé le Rubicon. Ce fin stratège et tacticien, qui repoussa à l'aide de ses armées les frontières de la République romaine jusqu'au Rhin et à l'océan Atlantique en conquérant la Gaule, pleurait et ne se cachait pas. Sarah Ray, maître de conférence en histoire ancienne à l'Université de Valenciennes et autrice de « Les larmes de Rome, le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité » en 2017, écrivait « Dans la Rome républicaine et impériale, les pleurs accompagnent des événements de la vie privée et publique. Pour agrémenter leurs discours et asseoir leur autorité, des sénateurs, des empereurs et de brillants chefs d'armes n'hésitent pas à verser des larmes quand l'heure est grave. L'effet de leurs sanglots dépend de leur position sociale et de leur renommée. Les plaintes d'un aristocrate ont plus de portée que celles d'un simple soldat. Aux femmes, en revanche, les larmes sont souvent interdites, hormis dans le cas d'un deuil. Quand bien même leur nature et leur imbécillus animus les prédisposent aux pleurs. Le chantage à l'émotion est surtout féminin, pense-t-on. Malgré ses prescriptions de retenue, la philosophie, notamment stoïcienne, n'arrive pas à contrevenir à ce grand usage des larmes, qui est progressivement détourné et revalorisé par les auteurs chrétiens dans leur éloge de la pénitence. Alors je me suis dit qu'il s'agissait peut-être de cette morale judéo-chrétienne qui nous contraint à ne pas pleurer quand on est un homme. Je suis donc allé aux sources pour en avoir le cœur net. Et en prenant la Bible comme livre de référence, j'ai commencé par m'intéresser à David. Après que David ait tué Goliath, le roi Saül l'a choisi comme chef de son armée. David a gagné beaucoup de batailles et il est devenu célèbre, puis il devint un roi puissant. Pour autant, au sixième verset du chapitre 6 du livre qu'il écrivit, les psaumes, on peut lire « Je me suis épuisé à soupirer. Toute la nuit je baigne dans mon lit de larmes. J'inonde mon divan de pleurs. » Et oui, David, ce puissant roi, pleurait. La Bible nous parle aussi du prophète Jérémie, un prophète courageux, envoyé pour avertir le royaume de Juda de sa destruction imminente, prédicateur de la destruction de Jérusalem. Et l'on peut lire pourtant dans le livre qui porte son nom, au chapitre 13 au verset 17, « Et si vous refusez d'écouter, je pleurerai en cachette à cause de votre orgueil, je verserai de nombreuses larmes, mes yeux ruisselleront de larmes. » Un chapitre plus loin, on y lit « Mes yeux ruissellent de larmes, nuit et jour, sans arrêt. » Il nous est donc rapporté que ce prophète courageux pleurait. Vous me direz, c'était les Juifs, l'Ancien Testament. Vous avez raison. Mais en prenant le Nouveau Testament et un livre rédigé par l'apôtre Paul, la lettre qu'il écrivit aux Hébreux, on peut y lire au chapitre 5 et au verset 7. Durant sa vie sur terre, Christ a adressé des supplications ainsi que des requêtes avec des cris puissants et des larmes. Le Christ pleurait. Alors vous pouvez me rétorquer que ce n'était pas un homme comme les autres. Et vous aurez encore une fois raison. Mais dans l'Évangile, selon Matthieu au chapitre 26 et au verset 75, Matthieu nous révèle une scène particulière. Alors Pierre se souvint que Jésus avait dit « Avant qu'un coq chante, tu me renieras trois fois. » Alors il sortit et pleura amèrement. Pierre, Saint-Pierre pour certains, pleurait aussi. Et de nombreux passages font état des larmes et des pleurs en rapport avec des hommes et des puissants. Ce n'est donc pas de ce côté qu'il faut chercher pour trouver l'origine de cette castration empêchant les hommes de pleurer. À Adélaïde Krohn, doctorante en littérature du XVIIe siècle, observe que les larmes élèvent et expriment les mouvements naturels de l'âme, laquelle effleurerait à la sortie du visage. Ne pas pleurer est une faute morale, l'aveu intolérable d'un cœur dur et non pur. Loin d'être une preuve de faiblesse, les larmes sont alors beaucoup moins genrées, dixit la chercheuse. En peinture, les larmes savent aussi être associées aux hommes. Les larmes de Saint-Pierre, une œuvre réalisée par El Greco en 1605. Les larmes de Rogier van der Yaden, peintes en 1435 et exposées au Musée del Prado. Jusqu'au XVIIIe siècle, on allait voir des comédies larmoyantes, et c'était l'usage de pleurer en public. Mais la comédie larmoyante était une suite et un effet du développement naturel de la poésie dramatique française. La comédie ne devait plus susciter le rire, mais les larmes. C'est à Nivelle de la Chaussée que l'on doit ce genre appelé comédie larmoyante, mais il fut néanmoins bientôt imité par des écrivains de grands talents comme Diderot, Beaumarchais, Sedaine. Et puis, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, un revirement complet apparaît. Les pleurs s'intimisent et se féminisent. Les larmes se découvrent un sexe. Olivier Gazalet, philosophe, essayiste et maître de conférences, voit en cette évolution des mentalités l'influence de la morale stoïcienne, sagesse de la pudeur masculine, suivant laquelle les pleurs seraient une marque de lâcheté, de faiblesse et d'effémination. Du moment où les larmes sont genrées, elles s'associent à l'irrationnel de la femme, opposé à la rétention émotionnelle, pilier de la virilité masculine. L'historienne Anne-Vincent Buffot remarque qu'on est souvent gêné par l'authenticité des larmes d'autrui. C'est ce qui pèse sur les larmes féminines. Jusqu'à il y a peu, on pensait que les femmes maniaient les larmes comme un chantage. Les hommes étaient très prévenus contre leurs pleurs, qui, comme disait Flaubert, pleurent pour obtenir un cachemire ou pour se faire pardonner d'une infidélité. Je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. Sur une émission sujet à controverse, le risque évident serait bien sûr de tomber dans l'excès inverse et de se servir des larmes comme un cache-misère, un trompe-l'œil, c'est le cas de le dire. Il faut reconnaître que le poids de la tradition et des usages peut avoir comme tari le capital larme d'un individu. Si, garçonnet, on lui a sans cesse répété « Ne pleure pas, t'es pas une fille, pleure plus, t'es grand maintenant », l'ensemble de ces instructions a peut-être amputé l'adulte à venir de cette manifestation naturelle qu'est de pleurer. Rappelons-nous et réfléchissons à ce qu'écrivit Albert Camus en 1955 en commentant L'étranger. Dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. Et j'adhère complètement à ce constat. Ce n'est pas parce que je viens de faire l'éloge des larmes que j'en déduis qu'un homme qui ne pleure pas est un bourreau, un sans-cœur. Le besoin de conformité, comme dénoncé dans l'émission du mois dernier, les instructions normatives et la discipline morale imposées aux hommes, au mal, au vrai, ont eu raison des fonctions physiologiques des larmes. Nous devons sans cesse nous rappeler que les pleurs remplissent une fonction physiologique de protection, sont un message adressé à l'entourage, mais sont surtout une réaction saine et nécessaire du corps à ce qui se passe dans notre sphère émotionnelle. Les bienfaits physiologiques ne sont pas les seuls, il y a aussi des bienfaits psychologiques. Car bien que nombreux à penser à tort que les pleurs sont un signe de faiblesse, les pleurs ont de nombreux avantages pour la santé mentale. On va essayer de les résumer brièvement. Les pleurs activent le système nerveux parasympathique, dont la fonction principale est de provoquer ou de maintenir le corps dans un état détendu. Il agit sur le niveau de stress de l'organisme en le diminuant. Avec les larmes émotionnelles, le corps libère deux hormones puissantes responsables de notre bien-être, l'endorphine et l'ocytocine, des substances qui soulagent et créent une agréable sensation de tranquillité et de calme. Pour cette raison, après avoir pleuré, nous sourions souvent et ressentons une énorme relaxation. C'est pour ces raisons, entre autres, que nous devrions éviter de réprimer nos pleurs. Car se retenir de pleurer a de nombreuses conséquences négatives. Une personne qui ne se permet pas de pleurer quand elle en a besoin a tendance à manifester cette émotion de manière plus incontrôlable, pouvant être plus agressive, anxieuse et en colère. Être sensible ne signifie pas être faible. Ça signifie simplement être humain. Peut-être pour rassurer quelques auditeurs masculins qui se sentent gênés face aux larmes, à leurs larmes, eh bien, sachez que les individus à haut potentiel, bien qu'ils n'ont pas de comportement stéréotypé, se définissent par quelques critères. Le premier, ils sont hypersensibles émotionnellement. Certaines choses les atteignent et n'atteignent pas les autres. Vous me direz, j'ai l'impression que ça change un peu, qu'on voit parfois des hommes pleurer. Vous avez raison, et je m'en réjouis d'ailleurs. Mais j'aimerais apporter quelques commentaires et faire quelques remarques sur ces observations nouvelles. Qui voit-on souvent pleurer? Faites un petit effort de réflexion. Eh bien, le plus fréquemment, ce sont les sportifs. Certains d'entre vous peut-être se rappellent les larmes d'Olivier Giroud et d'Antoine Griezmann, quelques instants après que l'arbitre ait levé les bras pour annoncer le coup de sifflet final de la Coupe du Monde de foot de 2018. Ou celle de David Trezeguet en larmes au balcon de l'Hôtel Crillon à Paris le 10 juillet 2006, au lendemain de la défaite de l'équipe de France contre l'Italie en finale de la Coupe du Monde. Alors, d'après Patrick Lemoine, psychiatre, ces larmes s'expliqueraient par la dimension collective de l'événement. C'est surtout un signal ethnologique. Le foot est le sport de l'unisson par excellence. Ce psychiatre n'a pas dû voir les larmes de Michael Jordan, évoquant diverses anecdotes ayant parsemé sa carrière dans le Namath Memorial Basketball Hall of Fame. Les larmes n'ont ni genre, ni nation, ni discipline de prédilection. En témoigne le joueur de tennis serbe Djokovic. au même titre que l'escrimeuse tunisienne Inès Boubakri. Ou bien Teddy Riner, pleurant de rage aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, alors qu'il venait de se faire sortir du tournoi au troisième tour et dans le Golden Score. Et ce genre de manifestation se voit dans tous les sports, presque sur tous les podiums. Avec malheureusement toujours les mêmes commentaires. Il craque. Comment peut-on analyser ces commentaires ? Il craque. Et pas besoin d'être psychiatre, psychanalyste, sociologue ou ethnologue pour comprendre ce processus. Le sport, tous les sports, et quel que soit le niveau, exige de gros efforts, des sacrifices et une grande concentration pendant l'épreuve. Et je ne ferai pas de différence entre un sportif lambda et un grand sportif. Ayant pratiqué personnellement des sports différents et à différents niveaux aussi, je peux vous dire que l'investissement est très voisin, du moins dans l'esprit, chez tous les sportifs passionnés. Alors après avoir été sous tension pendant toute la durée d'une épreuve, ayant été sous contrôle de toutes nos émotions pour être le plus performant possible, la fin de l'épreuve, surtout sanctionnée par une victoire, offre et sonne comme un espace de relâchement quasi absolu, où toutes les attitudes normatives s'effacent derrière le naturel, tout simplement. Le naturel. Et là, les émotions, suivant la nature des individus, amènent et conduisent aux pleurs ou aux rires. Personne ne craque, non. Il se libère tout simplement du carcan des us et coutumes, du poids des traditions n'octroyant pas les larmes au mâle viril. La seconde catégorie de personnes que l'on peut parfois voir pleurer sont les hommes politiques. On se souvient peut-être du président Barack Obama lors d'une conférence de presse sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis, à la Maison-Blanche, évoquant les enfants américains qui, chaque année, perdent la vie dans des fusillades. Ces dernières décennies, plusieurs grands dirigeants de ce monde se sont laissés aller aux pleurs en public, y compris le président russe Vladimir Poutine. Mais là, sans remettre en doute la sincérité d'Obama, il est fréquent de porter un regard assez critique sur ce genre de manifestation. Ce genre de larmes sont souvent analysées comme un stratagème, une manipulation, assorties souvent à la fameuse expression « des larmes de crocodile ». D'ailleurs à ce propos, savez-vous d'où vient cette expression « larmes de crocodile » ? Cette expression fait allusion à une légende de l'Antiquité où les crocodiles charmaient leur proie par des gémissements. Une fois attirées, elles se faisaient prendre. Aujourd'hui, lorsque l'on pleure pour obtenir quelque chose, cela s'appelle des larmes de crocodile. Verser des larmes de crocodile signifie pleurer de manière hypocrite pour émouvoir son entourage, se plaindre d'un mal pour tromper autrui, pour obtenir quelque chose en retour. La personne à qui l'on attribue des larmes de crocodile est suspectée de simuler son chagrin sans ressentir la moindre peine. À vrai dire, ce reptile géant est-il capable d'afficher une tristesse de façade ? Ce qui est sûr, c'est que ces reptiles possèdent en effet des glandes lacrymales qui leur permettent notamment de lubrifier leurs yeux en les clignant, réflexe intervenant lorsqu'ils restent longtemps hors de l'eau. Des larmes ont également été observées chez l'animal durant son alimentation. Des chercheurs ont établi que les glandes lacrymales de certains crocodiliens présentent les mêmes circuits neuromoteurs que les glandes salivaires et gastriques. Ainsi, lors du repas, la salivation s'activerait en même temps que les larmes. Le comportement d'un crocodile qui pleure en mangeant ne doit rien à un état de tristesse, mais à un mécanisme physiologique. La première attestation de cette expression, au sens où on l'entend aujourd'hui, date du IVe siècle dans un sermon du théologien Astérios le Sophiste, qui encourage le chrétien en carême à se conduire comme un crocodile repentant, à imiter les crocodiles du Nil qui, paraît-il, se lamentent sur la tête des hommes qu'ils ont dévorés et pleurent sur leurs crimes. Donc est-ce un atout ou un inconvénient pour un homme politique de se laisser aller aux larmes? Je vous laisse seul maître de votre réponse. Mais revenons à notre sujet. Depuis quand pleurer en public est mal vu, pour ne pas dire interdit, pour les garçons et pour les hommes qu'ils deviendront? Quels furent les événements qui modifièrent radicalement notre regard, le regard de nos sociétés occidentales, sur les larmes et les pleurs? Pour être moins abstrait, plus concret, essayons d'étayer et d'argumenter pour expliquer quand, comment et pourquoi l'association larmes et féminité est apparue. Et nous remarquerons d'entrée que cette association larmes et féminité est malgré tout assez récente. Comme nous l'avons vu précédemment, les hommes pouvaient auparavant pleurer ouvertement et en public. Et cela jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Comme en attestent entre autres les larmes versées par Stanislas de Clermont-Tonnerre lors de la Déclaration des droits de l'homme à l'Assemblée nationale constituante, après 6 jours de discussion. Et cela devant tous les députés. Et tous pleuraient face à cette œuvre collective, face à cette réussite éclatante. Ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs, durant tous les grands épisodes de la Révolution, il y eut des grandes scènes de larmes. On peut essayer d'expliquer rapidement pourquoi tant de larmes d'émotion durant la Révolution. Les fédérations, c'est-à-dire ces gouvernements particuliers qui se substituèrent aux anciennes autorités, donnèrent lieu à de grands rassemblements de masse, qui donnèrent lieu à leur tour à de puissantes démonstrations d'émotions collectives. Même si nous ne saurons jamais précisément ce que les millions de participants et d'observateurs des fédérations ont ressenti, les récits de l'époque contiennent pas mal de descriptions des émotions qui se sont manifestées à l'occasion de ces événements. Poussés certainement par la nécessité d'expliquer à leurs compatriotes à la fois les rituels en formation et même l'esprit du mouvement, ces partisans ont pris la peine de détailler avec une précision inédite l'ampleur des émotions collectives engendrées par ces cérémonies. La lecture des témoignages révèle l'intérêt croissant des premiers révolutionnaires français pour les liens collectifs. Il s'agissait en partie de tenir en échec leurs opposants, mais également de créer les conditions d'une affirmation collective de la nouvelle ère fraternelle que la Révolution incarnait pour beaucoup d'entre eux. L'importance des émotions tenait essentiellement dans leur capacité à se diffuser rapidement. Le succès du mouvement, des fédérations, s'est construit à la fois en générant des émotions collectives et en parvenant à donner au récit de ces fêtes une large publicité, à même d'attirer toujours plus de participants et d'élargir ainsi la participation révolutionnaire. Voilà comment, en quelques mots, on peut résumer l'origine de tant d'effusions de larmes d'émotion, durant cette période 1789-1790. Pourtant, cet épisode révolutionnaire fut en quelque sorte le tournant, c'est-à-dire le point de basculement. Mais précisons, comme nous le verrons, que la dévalorisation des larmes n'est pas le produit d'un seul facteur, mais de plusieurs événements conjugués qui se sont succédés. Commençons par le début, juste après la Révolution française de 1789. Les contre-révolutionnaires, ceux qui veulent la restauration de l'ancien régime, celui du roi, ceux qui viennent de perdre leurs privilèges avec la Révolution, résiste contre les libertés nouvelles et les nouveaux droits accordés au peuple. Ils prétendent que tous ceux qui pleuraient par euphorie étaient des buveurs de sang, d'où l'expression du sang et des larmes, propre à toutes les révolutions d'ailleurs, révolution qui s'acheva dans le sang et les larmes. Alors les larmes sont devenues suspectes, avec la critique du sentiment, car ces rassemblements, pleins d'émotions, avaient façonné les premières années de cette révolution. Et il y avait derrière cela le procès de la révolution. On reprochait tout simplement au sentiment d'avoir enfanté la terreur. Le 19e siècle s'annonce donc comme celui de la retenue dans les larmes, avec les romantiques qui, paradoxalement, méprisent les effusions émotives. Anne-Vincent Buffot, une chercheuse en histoire et en sciences sociales, nous fait remarquer qu'ils commencent à dire, les romantiques, que le sentimental, c'est de la sentimentalité, que le sensible, c'est de la sensiblerie. L'homme sensible doit au contraire exprimer ses sentiments avec discrétion et pudeur. On le voit dans Lucien Leven, le deuxième grand roman de Stendhal, où le héros se met à pleurer. Il dit « Toute honte, honte bue, on m'a vu pleurer. C'est la perte de la dignité virile, surtout pour un jeune homme. » Puis, plus on arrive vers le 19e siècle, vers l'idéal de maîtrise de soi, plus les choses se transforment vers un corps qui se referme pour les hommes. Et c'est là que se situe certainement le réel basculement. Il faut que le garçon devienne héroïque, téméraire, courageux, et les larmes lui sont interdites. Il faut qu'il comprenne que l'agressivité est un penchant naturel chez l'homme. Et c'est pour ça qu'il part à la guerre. Évidemment que pour mourir et pour tuer, il est préférable de ne pas laisser apparaître ses sentiments. Puis de nouveaux principes de virilité apparaissent. Essayons de les répertorier par ordre chronologique, ce qui nous facilitera la compréhension de ce phénomène. ...1798. La loi Jourdan-Delbrel, adoptée le 5 septembre 1798, institue la conscription universelle et obligatoire pour tous les hommes français âgés de 20 à 25 ans, c'est-à-dire le service militaire obligatoire. Et là, la guerre n'est plus réservée à des professionnels, comme sous l'Ancien Régime, quand les souverains recrutaient les soldats parmi les vagabonds et les officiers parmi les jeunes nobles en mal d'aventure et de gloire. Service s'accompagnant d'un traitement rude et intensif, engageant tous ces jeunes hommes à ne pas écouter leur corps. Seule une virée dans un claque pouvait leur permettre, entre l'alcool et les filles, de soulager leurs tensions. Ce service militaire s'affirme comme un rite de passage viril où la sensibilité n'a pas sa place. Cette injonction à la retenue s'accompagne aussi d'un nouveau discours médical qui place la raison du côté des hommes et l'émotion du côté des femmes. Mais il n'y a pas que le discours sur la virilité masculine qui accrédite le fait que l'homme ne doive pas pleurer. Nombreux théoriciens de cette époque, dont Darwin, bien connu pour ses théories sur l'évolution des espèces, explique que les enfants sont un peu inconsistants, les vieux décharnés, et les femmes sont condamnées et dominées par leur sentimentalité, alors que les hommes, eux, sont évolués, accomplis, raisonnables, et ont la bonne attitude, le bon comportement. On comprend bien, d'après ces discours darwiniens et ces théories, que les femmes sont dépeintes comme affectives, insupportables, démesurées, imparfaites. Elles sont aussi représentées comme craintives, faibles et pleurnicheuses. Et c'est avec cette apparition genrée des larmes qu'apparaît le signe de la virilité, où les larmes se doivent être absentes. Il y a des études à la fin du 19e siècle sur l'hystérie, avec Charcot, Jean-Martin Charcot, un neurologue français né en 1825, professeur de clinique des maladies nerveuses à la faculté de médecine de Paris. Il devient médecin des hôpitaux de Paris en 1856 et fut nommé à l'hôpital de la Salpêtrière en 1862, où il exerça jusqu'à sa mort. Il est d'ailleurs avec Guillaume Duchesne le fondateur de la neurologie moderne. D'après lui, d'après ce Charcot, les larmes sont considérées comme un liquide qui fait partie des liquides féminins, comme les règles, le lait. Les choses commencent à se préciser. D'autres regards, d'autres pistes viennent étayer cette nouvelle vision portée sur les larmes, et l'on peut légitimement penser que ce changement fut fortement étayé au XIXe siècle, avec entre autres la conscience de la douleur physique formalisée par Nietzsche, grand philosophe du XIXe siècle. Rappelons que pour Nietzsche, il faut s'ouvrir à la souffrance pour créer et pour vivre supérieurement. C'est l'aptitude à affronter et surmonter la souffrance qui sert de critère entre les forts et les faibles. Le surhumain, en opposition avec la pitié, sera l'horizon de dépassement des hommes. Nietzsche s'en prend à l'idéal ascétique et dénonce le rôle pernicieux qu'ont joué les prêtres dans le processus d'intériorisation de la douleur. Nous pouvons remarquer que Nietzsche ne nous invite nullement à réduire la souffrance, mais bien au contraire à envisager qu'elle soit nécessaire. Il fait de la souffrance un critère pour déterminer qui sont les forts. Avec cette attitude de dureté envers les hommes, Nietzsche veut que l'homme souffre davantage afin de prouver sa valeur. En associant étroitement l'élévation de l'homme avec ce qu'il nomme la discipline de la grande souffrance, en opposant les hommes forts et les hommes faibles, sous le regard de l'acceptation de la douleur. Nietzsche et sa philosophie ont grandement participé à l'abandon des larmes pour les hommes. On peut légitimement imaginer qu'il soit plus acceptable pour les hommes de se retrouver parmi les forts qu'avec les faibles. Puis en 70 piges, trois événements déterminants et une loi vont encore accentuer cette absurdité. 1870. Apparaît un nouveau conflit qui oppose la France à une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse, ce qu'on appellera la guerre de 1870. Le 15 juillet, le républicain Émilie Ollivier, président du Conseil, sans toutefois emporter le titre, dit devant le corps législatif « accepter la guerre d'un cœur léger ». Cette décision provoque un rassemblement enthousiaste des Parisiens devant le palais des Tuileries. Peu se rendaient compte que l'armée française était mal préparée à cette guerre. Le conflit tourne rapidement à l'avantage des Allemands. Les Français sont défaits à plusieurs reprises, début août, sur le front de l'Est. La capitulation de Napoléon III entraînera la chute du régime. Sur 260 000 soldats français, on compta 139 000 morts. Il faut dire que depuis 1789, le pays a connu une histoire mouvementée, deux républiques, deux empires, deux monarchies, le tout ponctué par quatre révolutions. Pour les fondateurs du nouveau régime, il s'agit d'assurer enfin la stabilité de la République, toujours menacée par les forces bonapartistes et royalistes. Dans les années 1880, la jeune Troisième République, elle a 10 ans, souhaite enraciner les valeurs de la République avec entre autres la loi du 28 mars 1882, portant sur l'enseignement primaire obligatoire, ce qu'on appellera les lois Jules Ferry. Une paire de lois sur l'école primaire en France, votée en 1881-1882, qui rendent l'école gratuite et l'instruction primaire obligatoire. Mais le contexte n'est pas le même au qu'aujourd'hui. Ainsi, la loi précise, entre autres, pour les garçons, les exercices militaires. Pour les filles, les travaux à l'aiguille. Puis c'est à l'écrivain français Charles Péguy que nous devons, dès 1913, ces formules en forme d'idiotisme militaire désignant les instituteurs publics comme les hussards noirs de la République. On ne peut, bien sûr, s'empêcher de penser au fameux hussards noirs, cet escadron de cavalerie constitué pendant la Révolution. Puis, pour accélérer un peu, est arrivé 1914, la Première Guerre mondiale, 14-18, où l'on retrouve la France contre l'Allemagne, entre autres. La France, malgré une population d'environ 39 millions d'habitants à l'époque, dispose immédiatement de près de 800 000 soldats d'actifs, la mobilisation terminée vers le 15 août, venant compléter les effectifs. Et je me souviens des récits de mon grand-père me racontant les Dardanelles ou le chemin des Dames. L'heure n'était pas au pleurnichement dans les tranchées. On peut et on se doit de souligner que la Grande Guerre a constitué un tournant dans la médicalisation de l'angoisse. Il est important d'évoquer le rôle de la Première Guerre mondiale sous ce rapport, car l'impact de la guerre sur les sociétés dépasse en effet les seules périodes de conflit. Alors nombreux médecins, psychologues, psychanalystes, psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, souvent élèves et disciples de Sigmund Freud, travaillèrent sur ces troubles mentaux que sont l'angoisse et le stress, évoquant ainsi les états d'angoisse avec excitation, inquiétude, dépression et tendance à pleurer. Si certains médecins repèrent cet état d'angoisse, ils s'efforcent dans l'ensemble de les minimiser, à l'image d'ailleurs de ce qui est fait pour les soldats. Il s'agit surtout de montrer que l'anxiété est l'affaire des autres. Cette approche n'est pas propre à la psychiatrie française. À Paris, chacun est allé au-devant de son devoir, sans émotion visible, sans trouble nerveux, sans rien qui indiquât une perturbation trop grande de notre organisme social, écrivit ainsi le docteur Chauffard. L'entrée en guerre révèle la supériorité de la race française sur d'autres. Non, sans contradiction, certains médecins font même l'éloge de cette guerre qui bouscule les habitudes et permet de sortir d'une vie normale et médiocre. Dans l'adversité, l'individu doit dépasser ses peurs et ses anxiétés pour se mettre au service de la nation. L'incapacité à surmonter l'angoisse, ce que l'on appelle l'accident nerveux, est vue comme le fruit d'une affection nerveuse ancienne. En d'autres termes, la guerre ne fait que révéler un état latent. L'angoisse de guerre découle généralement d'une prédisposition morbide que les circonstances ne font que révéler. L'extrême émotivité que ces troubles traduisent indique une anomalie existante de l'équilibre mental. Seuls les plus faibles succombent à cette maladie qu'est la peur, le stress et les pleurs. Seuls les plus faibles succombent à cette maladie qu'est la peur, le stress et les pleurs. Puis une vingtaine d'années passent, et pour conclure et parachever ce siècle et demi d'émotions et de souffrances, le conflit, connu sous le nom de Seconde Guerre mondiale, éclate. On est le 1er septembre 1939, et commence ce qu'on appellera cette drôle de guerre. Voilà comment, en deux petits siècles, ce qui n'est rien au regard de l'histoire de l'humanité, on est passé de la délectation des larmes au « eh ben alors, tu chiales !» et un monde entre les deux noms. Cette inversion se traduit aussi par des petits gestes. Peut-être que nous participons à cette mascarade. Le « arrête de chouiner » à son fiston qui vient de trébucher et qui va vite comprendre que pleurer s'apparente à de la faiblesse. Et puis ce banal geste de gentillesse, mais pas spécialement judicieux, qui consiste à tendre un modeste mouchoir en papier pour éviter à son gamin que ses copains le voient pleurer devant la porte de l'école où il n'a pas envie d'entrer. Et comme certains philosophes, poètes et écrivains l'ont écrit, les hommes sont condamnés à devoir sans cesse prouver et confirmer par la force et le courage qu'ils sont bien des hommes. Et par hommes, on entend qu'ils ne sont pas des femmes. Ce qui induit implicitement que tous les signes extérieurs et apparents doivent confirmer leur virilité masculine. Et comment se manifeste cette virilité ? Tout simplement en prenant le contre-pied de ce qu'est une femme ou de ce qu'est être supposé une femme. La femme est émotionnelle, l'homme ne l'est pas. Une femme pleure, alors un homme ne pleure pas. Plus ridicule que sa tumeur. Mais il faudrait peut-être rappeler à certains, et pour se rassurer aussi, que la masculinité a pris des formes différentes au fil des siècles. Nous pouvons, par exemple, citer le cas des chaussures à hauts talons. Si on a plus l'habitude de les voir aux pieds des femmes, elles étaient à l'origine destinées aux hommes. Cela était vrai en Grèce il y a plus de 2000 ans, mais l'origine des talons hauts tels que nous les connaissons aujourd'hui remonte à la Perse du XVe siècle, où les soldats portaient des chaussures à petits talons pour aider à sécuriser le pied dans les étriers. Par la suite, les migrants persans ont introduit la tendance des chaussures à talons en Europe, où les aristocrates masculins ont commencé à les porter pour paraître plus grands et plus redoutables. Au fur et à mesure, les chaussures à talons sont ensuite devenues un accessoire pour différencier la royauté et la noblesse des moins nantis. Louis XIV dit « Le grand, le roi soleil, portait des talons ». Et si quelqu'un à la cour avait des talons un peu plus hauts que le roi se devait, pour montrer sa supériorité, d'en avoir des encore plus hauts. Vous voyez comment les choses changent vite en ce qui concerne les atouts et les apparences de la masculinité. Alors, rien n'est peut-être perdu quant au retour des larmes d'émotion non contenues pour la gente masculine. Je tenais malgré tout à ouvrir une petite parenthèse sur l'instrument qui me servit à illustrer cette émission. Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, ou ceux qui ne le connaissent pas encore, il s'agit du hang, un instrument de musique acoustique de la famille des idiophones, un instrument à percussion inventé à Berne, en Suisse, en 2000. On le retrouve aussi sous le nom de hang drum. Hang, qui veut dire main en dialecte bernois, mais aussi colline, sans doute à cause de la forme de cet instrument et de la façon dont on en joue. Il n'y a qu'à effleurer avec les mains la surface métallique de cet instrument pour le faire teinter et lui faire sortir des sonorités les plus douces, étonnantes et enivrantes à la fois. Ce choix fut motivé par deux dimensions. La première, qui ne se voit pas en radio, sa forme, circulaire et d'un volume lenticulaire pouvant rappeler celui d'une larme, mais tout particulièrement en raison du son produit par cet instrument, un son cristallin, pur, clair et limpide, m'évoquant une goutte qui tombe comme une larme qui tombe. S'il est vrai que cet instrument fut particulièrement mis en valeur, quasiment révélé d'ailleurs par le duo Wang Massive, avec le thème que nous sommes en train d'écouter en ce moment, d'autres musiciens s'y sont adonnés et me furent utiles pour réaliser cette émission. Avec un choix particulier de thème où l'on entend l'instrument qu'en solo ou en duo, mais sans aucun autre accompagnement musical. Pour mieux connaître ces musiciens, ou bien les découvrir, vous pouvez consulter le site orinoco-podcast.com où vous pourrez bien sûr réécouter ce programme, mais aussi trouver la liste complète des thèmes, des albums et des artistes qui nous accompagnèrent tout au long de cette émission.
C'était une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Beck.
Et voilà comment cette dernière heure passée en votre compagnie pour cette année 2022 s'achève. Je pense et j'espère qu'en cette fin d'année, il y aura beaucoup de larmes, des larmes de bonheur, pour certains grands-parents retrouvant leurs petits-enfants qu'ils ne voient peut-être qu'une fois par an, des larmes d'émotion, peut-être pour certains papas voyant venir au monde un petit bout de chou qu'ils attendaient avec impatience, des larmes de tristesse, de certains fistons se remémorant leurs parents absents. Quoi qu'il en soit, pleurez, assumez vos sentiments, vos émotions, vos peines, vos tristesses. Osez montrer aux autres la profondeur de votre attachement, de votre amour, de vos sensibilités. La masculinité, la virilité, à l'opposé de la lâcheté et de la poltronnerie, c'est d'oser et d'assumer. Et si vous ne pouvez pas, écrasé par des siècles d'obscurantisme philosophique et culturel, eh bien, apprenez à assumer cette fonctionnalité naturelle et découvrez le plaisir à ne plus vivre caché derrière ce masque de pudibonderie, derrière cet enfumage machiste. Terrez derrière ces théories castratrices à deux balles qui vous ont privé depuis trop longtemps de ce phénomène naturel et libérateur qu'est la larme. En attendant, j'espère vous retrouver dès la première semaine de janvier 2023 pour de nouvelles réflexions, de nouvelles pensées, de nouveaux voyages. Je vous laisse encore quelques instants en compagnie de Wang Massive et de ce thème « Once Again ». Merci pour votre fidélité et à dans un mois.